écoutez Alger Chaîne 3, le journal.
Tout de suite, le journal de 23h avec vous, Mounir Laharaj. Mounir, bonsoir.
Chem Sedine Bouzid, bonsoir à tous. C'est la une de votre édition. Le souverain pontife, chef d'État du Vatican, le pape Léon XIV a achevé aujourd'hui sa visite officielle en Algérie. À l'invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a salué le pape à son départ à l'aéroport international Houari Boumedine d'Alger. Une visite historique et le pape Léon XIV n'a pas manqué de souligner l'importance de ce voyage en Algérie. Il a aussitôt fait savoir à travers Vatican News, le portail d'information du Vatican qualifié par le pape de belle occasion de continuer à construire des ponts et à promouvoir le dialogue qui permet de jeter de nouvelles passerelles entre les deux rives. Saluant le peuple algérien pour son hospitalité et le respect qu'il voue à Saint-Augustin, faisant part de son enthousiasme et son émotion après les deux jours passés en Algérie. Une visite largement relayée par la presse internationale. Réunion du gouvernement ce mercredi, création prochaine d'une agence nationale à l'efficacité énergétique, annonce faite lors de cette réunion du gouvernement, nous ferons le point. Le géant mondial British Petroleum, ANAFT, est de retour en Algérie et ANAFT lui accorde la prospection dans les bassins de l'est du pays. Saisie de 11 quintaux de kif traités en provenance du Maroc par les détachements de l'armée nationale populaire. Nous ferons le point dans ce journal et dans l'actualité internationale. L'affaire du tunnel secret, et donc entre le Maroc et l'Espagne franchit un nouveau cap judiciaire. Désormais porté devant l'audience nationale et la police espagnole a démantelé deux réseaux criminels actifs dont la traite d'êtres humains, et la drogue entre le Maroc et l'Andalousie. Culture, la deuxième édition du Salon international des arts plastiques a ouvert ses portes aujourd'hui à la Maison de la Culture en Barak El Mili, de la wilaya de Mila, un salon qui réunit 18 artistes plasticiens de plusieurs pays. Et puis en sport, le football, début demain de la 27e journée du championnat de Ligue 1 et Champions League européenne, quart de finale, retour, les demi-finalistes sont connus. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Alger Chaîne 3. Le pape Léon XIV, premier pape à se rendre en Algérie, a achevé aujourd'hui sa visite officielle, entamée lundi. Alger, première étape de sa tournée africaine qui le mènera au Cameroun aujourd'hui et en Angola et puis en Guinée équatoriale. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l'a salué à l'aéroport international Houari Boumedienne ce matin. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, le président de la République et le pape Léon XIV, chef d'État du Vatican, ont passé en revue des détachements des différentes forces de l'armée nationale populaire qui leur ont rendu les honneurs. La visite de trois jours du pape Léon XIV, la première effectuée par un souverain pontife, acquiert une dimension culturelle politique indéniable par ses temps de grande complexité, de tiraillement au plan international. Elle s'est présentée sous le signe de la paix, du dialogue et de l'entente et de coexistence pacifique, des valeurs que partagent les deux parties, des principes de convergence, une visite historique et une Algérie peuple et gouvernement qui a profondément marqué le souverain pontife. Il a tenu à l'exprimer après avoir quitté Alger à destination du Cameroun, deuxième étape de son périple africain, je le disais. Maïl Kenz.
Le pape Léon a qualifié sa visite en Algérie de bénie, exprimant sa profonde gratitude envers les autorités algériennes, à leur tête le président de la République Abdelmadjid Tebboune, pour le succès de ce déplacement. Il a également remercié l'ensemble des institutions algériennes pour leur contribution, saluant notamment les mesures d'accompagnement et de sécurité qu'il considère comme un signe de générosité et de respect. Le souverain pontife s'est dit particulièrement ému par ce séjour et qu'il décrit comme une étape importante de sa première visite en Afrique, une occasion de renforcer les liens et de promouvoir le dialogue entre les peuples. Au cours de cette visite, il s'est rendu à Annaba sur les traces de Saint-Augustin, dont il dit partager le message de paix, d'unité et de respect. Il a également visité Jama al-Jazair, insistant sur la possibilité de vivre ensemble dans la paix. Enfin, le pape Léon a salué l'accueil chaleureux du peuple algérien et le respect profond qu'il porte à la mémoire de Saint-Augustin, qu'il considère comme son père spirituel.
Message du pape Léon XIV à Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. Après avoir quitté Alger, alors que je quitte la République algérienne démocratique et populaire, j'exprime ma profonde gratitude à votre excellence ainsi qu'au peuple algérien qui occupe une place particulière dans mon cœur pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont j'ai bénéficié au cours de ma visite. Dans la confiance de mes prières, j'invoque pour la nation la bénédiction divine, la paix et la joie. La visite de 3 jours du pape Léon XIV, la première effectuée par un souverain pontife, je le disais, qui acquiert une dimension culturelle, politique indéniable par ces temps de grande complexité et de tiraillement au plan international. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, a ainsi insisté sur la coexistence et dialogue des valeurs, héritage légué par 2 fils de l'Algérie, saint Augustin, qui fut le penseur le plus influent du monde jusqu'à Thomas d'Aquin, et l'émir Abdelkader, fondateur du droit humanitaire international, qui a inspiré les valeurs de la Croix-Rouge internationale, sauveur de milliers de chrétiens lors de son exil à Damas, l'Algérie attachée à la justice sociale et à la solidarité avec les peuples, notamment palestiniens, nous dit le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
Al-Jazair ta'tazzu ayyum a'tizaz bi'irth al-qaddis Agustin ka juz' asil wa muta'assil fi tarikhina al-'ariq. مثل ما تهتز كذلك هي مع اعتزاز بإرث مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر الذي كان بحق رجل دولة ورجل دين ورجل فكر سبق عصره في ترسيخ قيم التسامح والحوار والتعايش الأمين وما أحوج عالمنا اليوم إلى استلهام من إرث هاتين المنارتين الساطعتين من أرض الجزائر في وقت تتسارع فيه التحولات وتتعاظم فيه التحديات ويتراجع فيه حضور القيم المرجعية التي ينبغي أن تلتف حولها وتهتدي بهديها الإنسانية بأسرها أنتم اليوم قداسة البابا خير مرافع عن السلام في العالم في وقت تعصف فيه الحروب بأمن واستقرار عديد المناطق عبر العالم وفي مقدمتها منطقة الشرق الأوسط ونحن من يجدون العزاء في موقفكم الشجاع والإنساني من مأساة غزة وإننا لندعو بصوت واحد مع قداستكم ومع كل الضمائر الحية في العالم إلى إنصاف الشعب الفلسطيني بتمكينه من جهود الإغاثة الموجهة إليه ووضع حد للجرائم الممنهجة المسلطة عليه وإعلاء حقه غير القابل للتقادم في إقامة دولته المستقلة والسيدة.
Abdelmadjid Tebboune, président de la République. Une visite papale qui a occupé les premières manchettes. Mais avant cela, l'Algérie a réservé au pape Léon XIV un accueil des plus chaleureux. Hospitalité et bien aisance soulignée par le pape Léon XIV lors de l'étape qu'il a menée sur les pas de saint Augustin à Annaba. Une visite qui revêt une profondeur tant politique, diplomatique que spirituelle. Elle vient ainsi réaffirmer les liens forts entre les peuples, culturels et religions. Et une tradition bien ancrée dans le pays, nous dit Hélène Seyssi.
D'abord, cet accueil officiel du président de la République au niveau de l'aéroport international Houari Boumediene, dans une ambiance solennelle marquée par cette poignée de main chaleureuse entre le chef de l'État et le souverain pontife de l'État du Vatican. Léon XIV qui s'est recueilli par la suite au monument des martyrs Maqam Shahid en hommage aux révolutionnaires de la guerre de libération nationale. Une escale mémorable lors de laquelle le pape, devant la délégation venue l'accueillir au niveau de l'esplanade de Riyad al-Fath, a mis en avant le riche patrimoine dont dispose l'Algérie. Après un accueil officiel au siège de la présidence, c'est vers Jama al-Jazair que le convoi papal se dirige. À son accueil, le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le chef de l'État, prononce en cette occasion un discours suivi de celui du pape Léon XIV. 2 allocutions qui ont mis en avant la convergence de vues des 2 États sur la question humanitaire et des droits de l'homme dans le monde et plus particulièrement dans la région du Moyen-Orient, notamment
à Gaza. En visite à la salle de prière, la photo du pape aux côtés du recteur de Jam'a al-Jazair se recueillant devant le mihrab de la mosquée est relayée par des millions d'internautes à travers les réseaux sociaux. La presse internationale la qualifie de symbole d'acceptation et de dialogue interreligion. Autre escale dans la visite officielle du souverain pontife le mènera tout naturellement à la basilique de Notre-Dame d'Afrique où la communauté chrétienne a témoigné du climat de sérénité et du bon vivre ensemble aux côtés des musulmans. La deuxième journée de la visite, c'est à Annaba que le convoi papal fait sa halte, un événement exceptionnel, comme qualifié d'ailleurs par les citoyens annabi qui se sont déplacés vers la basilique de Saint-Augustin. Et sur les traces de Saint-Augustin, Léon XIV procède également à la plantation d'un olivier, un geste considéré comme un message de paix. En somme, une visite historique qui marque une nouvelle page qui s'ouvre sur le dialogue interreligieux où le rôle de l'Algérie demeure incontournable.
Et je le disais, une visite papale qui a occupé les premières manchettes de la presse mondiale, première historique, lourde de sens largement relayée par la presse internationale, qui a attentivement accompagné cette visite du pape en Algérie, Amel Azib.
Les médias internationaux ont dans l'ensemble relevé le message de paix et de coexistence véhiculé par Léon XIV. L'Algérie, première étape d'une visite en Afrique qui reflète l'importance approfondie que le Vatican accorde à l'Algérie en tant que lien spirituel et historique incontournable, une idée relevée par la BBC et le Guardian. La presse du Vatican a relevé les moments forts de l'événement, notamment à Annaba où la chorale entonnant les chants en latin, en arabe et en amazigh, inspiré des textes de Saint Augustin. Augustin a séduit l'assistance. Le site Info Catholica a mis l'accent sur les valeurs solides transmises à cette occasion, à savoir amitié, confiance et solidarité. Russia Today a mis en exergue la volonté des deux parties de renforcer la coopération au service de la paix et de l'humanité. BFM TV, RTBF ont souligné dans leur compte-rendu la coexistence pacifique relevée par le message papal. Al Jazeera, Quds Al Arabi, Sharq Al Awsat notamment ont réalisé des reportages et mis en exergue les valeurs de coexistence prononcées par le pape. Enfin, l'Associated Press a suivi l'événement et a souligné le message du pape Léon XIV qui appelle à la fin des tendances néocoloniales dans les affaires mondiales.
À 23h12, c'est ce que l'on pouvait dire de la visite qualifiée d'historique du pape Léon XIV, chef d'État du Vatican. Et l'actualité est marquée par le président du Conseil de la Nation, représentant du président de la République Abdelmadjid Tebboune Azzouz Nasri, qui prendra part ce jeudi à la cérémonie d'investiture du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, réélu à l'issue du scrutin présidentiel tenu le 15 mars dernier, indique aujourd'hui un communiqué du Conseil de la Nation. Et puis, dans une allocution prononcée lors de la 5e conférence du réseau parlementaire du mouvement des non-alignés, tenue en marge des travaux de la 152e Assemblée générale de l'Union interparlementaire, placée sous le thème « Le rôle des parlements dans la garantie d'un développement urbain résilient face au changement climatique dans le pays » du MENA, Bourelier a présenté l'expérience algérienne dans le domaine du développement urbain. À ce propos, Bourelier a précisé que cette expérience repose sur une vision stratégique globale conduite par les hautes autorités du pays, mettant l'accent sur la réalisation d'un équilibre entre les dimensions environnementales et socio-économiques, a indiqué donc l'approche algérienne dans la matière qui émane d'une conviction profonde quant à la nécessité de parvenir à une véritable justice climatique. Et le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Soufiane Chaïb, a reçu aujourd'hui au siège du ministère des Affaires étrangères le directeur régional du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, MENA, Edouard Beder. Cette rencontre a été l'occasion de passer en revue les relations privilégiées entre l'Algérie et l'UNICEF et d'examiner les moyens de renforcer, ou plutôt de les renforcer à travers la mise en œuvre de programmes et de projets ambitieux dont les domaines d'intérêt commun, notamment en ce qui a trait au soutien et à la promotion des droits du bien-être de l'enfant. Et aujourd'hui, réunion du gouvernement, création prochaine d'une agence nationale à l'efficacité énergétique et conditions d'homologation des produits de construction, entre autres, dossier au menu de la réunion du gouvernement ce mercredi. L'exécutif s'est réuni autour du Premier ministre Sofia Boukhadja.
Cette nouvelle agence vise à optimiser et rationaliser les structures publiques, mieux mobiliser les compétences et permettre une meilleure coordination du secteur énergétique. Yaïssi Boukhalfa, directeur général de Green Energy Cluster.
C'est une nouvelle étape destinée principalement à renforcer le rôle en assurant la fusion entre l'APRU et le CRF et surtout aussi en permettant au ministère de tutelle de jouer son rôle de manière beaucoup plus importante. La nouvelle institution qui va s'occuper uniquement de la maîtrise de l'énergie et son Enagaz qui va s'occuper des énergies renouvelables. Donc cela va réduire la redondance qu'il y avait auparavant avec des structures qui vont s'occuper distinctement de leur secteur, un pour l'efficacité énergétique et un autre pour les énergies renouvelables. Utiliser au mieux les compétences des uns et des autres et aussi les prérogatives des uns et des autres.
Par ailleurs, l'homologation des matériaux de construction constitue un maillon essentiel. Elle permet la certification et facilite l'exportation. Mansouf Bouderba, président de l'Association des céramistes algériens.
L'Algérie est une puissance méditerranéenne. L'industrie du BTPH et en particulier tous les matériaux de construction aujourd'hui sont intégrés à 95% en Algérie. Ça nous laisse une marge de manœuvre extraordinaire pour les exportations. L'homologation est un maillon de la chaîne qui doit être mis en place pour pouvoir avoir la certification obligatoire pour exporter. Ça rentre dans le cadre de la politique diversification prônée par le président de la République. Cela va permettre aux produits made in Algérie, le surplus que nous avons dans la brique, la céramique, le fer et le ciment, de pouvoir s'exporter librement.
Le gouvernement a également étudié un projet de décret exécutif portant sur les conditions d'entretien et d'exploitation des infrastructures routières, autoroutières, aéroportuaires, portuaires et ferroviaires.
Et puis cette information, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités Locales et des Transports, Saïd Sayoud, a donné aujourd'hui des instructions à ses services en vue d'assurer une préparation optimale pour la réussite des élections législatives prévues le 2 juillet prochain, à travers une prise en charge rigoureuse de tous les aspects logistiques et la mobilisation des moyens nécessaires au niveau des collectivités locales. Et de son côté, le ministre de la Communication, Zohair Bouamama, a rencontré aujourd'hui des membres du Bureau national de l'Organisation nationale des journalistes algériens, afin d'examiner les différentes questions professionnelles et les problématiques de fond soulevées sur la scène médiatique. Et cette réunion qui s'est déroulée au siège du ministère en présence du président de l'organisation Slimane Abdij s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques que le ministère s'attelle à organiser avec des partenaires sociaux, les professionnels du secteur et les différents acteurs dans ce domaine. Et le géant British Petroleum est de retour en Algérie. Il a reçu une autorisation de prospecter une prospection d'Alnaft dans le bassin de l'Est avec une ambition de mobiliser des technologies de pointe. Retour de British Petroleum en Algérie constitue un signal fort de la confiance renouvelée de compagnies internationales. Et le ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arqab, a évoqué avec son homologue jordanien les voies de renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines des hydrocarbures, notamment l'exportation du pétrole, du gaz, GPL et GNL. Mohamed Arqab a également reçu le vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires économiques sud-coréen au menu de cette rencontre, la coopération bilatérale. Et puis les détachements combinés de l'armée nationale populaire du secteur militaire de Béchar ont déjoué hier une tentative d'introduction de plus de 11 quintaux de kif traité provenant des frontières avec le Maroc. Tension, et dans l'actualité internationale, tension entre Washington et Téhéran, entre négociations incertaines, menaces autour du détroit d'Ormuz et renforcement militaire américain. La fragile trêve semble plus que jamais menacée sur fond de bataille navale, nous dit l'Estarani.
Aucune prolongation formelle de la trêve n'a pour l'heure été actée, malgré des signaux laissant entrevoir un possible rapprochement ces derniers jours. Les canaux diplomatiques restent toutefois ouverts. Téhéran affirme avoir multiplié les échanges indirects avec les États-Unis via une médiation pakistanaise. Mais sur le terrain, le temps se durcit. L'Iran met en garde. La poursuite du blocus maritime américain pourrait faire voler en éclats le cessez-le-feu. Téhéran évoque même la possibilité de bloquer l'ensemble des flux commerciaux dans des zones stratégique majeure du golfe Persique à la mer Rouge. En même temps, Washington muscle son dispositif militaire. Le porte-avions George Bush ainsi qu'un groupe de plus de 4000 Marines sont attendus dans la région dans les prochaines semaines.
Et puis les discussions directes entre le Liban et l'entité sioniste, une première de plus de 3 décennies, se poursuivent à Washington dans un climat de forte tension. Les divergences restent profondes entre les deux parties sur fond de poursuite des opérations militaires sur le terrain. On écoute à ce propos Alexandre Raoun, spécialiste du Moyen-Orient, contacté par les Estérini.
Il y a eu des avancées israéliennes en territoire libanais à 10 km de la frontière. Ils ont pillonné tous les villages limitrophes en dynamitant toutes les maisons, en rasant tous les territoires. Les images sont assez similaires à celles dans la bande de Gaza en termes de destruction. Et il y a des affrontements en cours, notamment à Beit Jebel, qui auraient été pris par l'armée israélienne, poussant le Hezbollah à se retirer de cette zone très symbolique et très stratégique pour le mouvement chiite. Toujours est-il, c'est que Israël penserait mettre en place une zone tampon qui leur permettrait tout simplement de ratisser tous les villages limitrophes et secondo, continuer les opérations jusqu'au fleuve Litani qui permettrait un ratissage de tous les stocks d'armes et de tous les tunnels potentiels du Hezbollah et qui obligerait l'armée libanaise à désarmer et à potentiellement aller vers un affrontement ou en tout cas des désaccords persistants avec Hezbollah.
Et puis l'affaire du tunnel secret entre le Maroc et l'Espagne franchit un nouveau cap judiciaire. Elle est désormais portée devant l'audience nationale. Il y a 3 semaines, un tunnel souterrain reliant le Maroc à l'enclave espagnole de Ceuta, a été découvert. La police espagnole a saisi 17 tonnes de hashish et 1,4 million d'euros en liquide. 27 personnes ont été arrêtées. L'Espagne mène l'enquête principale dans cette affaire du tunnel secret, mais se heurte à un manque de coopération du Maroc. Nous dit le juriste Carlos Miguel. Il répond depuis Madrid à Rabea Slimani.
Quelle est la probable évolution de l'affaire? Il y a des responsables marocains impliqués, notamment le ministre de la guerre. Le tunnel vient d'une installation militaire marocaine. Le Maroc ne voudrait pas répondre aux sollicitations de l'audience nationale. L'affaire va se concentrer sur narcotrafic plutôt que sur la violation de la souveraineté. On voit tous les jours le trafic des drogues au sud de l'Espagne, à Huelva, Sevilla, où il y a des transports par mer de la drogue marocaine à l'Espagne. Donc le Maroc est une plaque tournante du narcotrafic, c'est déjà connu.
Et puis la police espagnole a démantelé 2 réseaux criminels actifs dans le trafic d'êtres humains et de drogue entre le Maroc et l'Andalousie dans le cadre d'une opération qui a conduit à l'arrestation de 24 personnes, ont rapporté des médias espagnols. Et puis une flottille sous-marine d'une 40aine de bateaux transportant des militants solidaires de la cause palestinienne a quitté la ville espagnole de Barcelone ce mercredi à destination de Gaza dans une nouvelle tentative de briser le blocus sioniste et d'acheminer de l'aide au territoire dévasté par plus de 2 ans d'agression sioniste génocidaire. Et avant de retrouver Reda Benagoudil pour l'actu sport, cette information clôture du salon Jazz Agro. Les acteurs du secteur agroalimentaire ont mis en avant la montée en qualité du produit algérien, désormais en mesure de répondre plus largement à la demande du marché local, une dynamique qui s'inscrit dans une logique de substitution aux importations. Reda Benagoudil, bonsoir.
Bonsoir Monir.
Et on commence avec la Champions League européenne, quart de finale retour et les demi-finalistes sont connus.
Effectivement, suite au résultat des 2 derniers matchs des quarts de finale retour, où le Bayern de Munich a battu le Real Madrid par 4-3, alors que le Real menait 3-2 jusqu'à la 88e minute. Le Bayern profite de l'expulsion de Kamavinga à la 86e minute pour refaire son retard 2 minutes plus tard par Luis Diaz et marquer le 4e but à la 90e+4 par Michael Olise. Dans l'autre quart de finale, Arsenal a été tenu en échec sur sa pelouse 0-0 et ne doit sa qualification qu'à sa victoire au match aller par 1-0. En demi-finale, le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern de Munich le 28 avril à Paris pour le match aller et le 6 mai au stade de l'Allianz Arena à Munich pour le match retour. L'autre demi-finale opposera l'Atlético de Madrid club anglais d'Arsenal. Le match aller prévu le 29 avril et le match retour le 5 mai à Londres.
Et toujours en football, début demain de la 27e journée du championnat de Ligue 1, Reda Benagoudil.
Le leader, le Mouloudia d'Alger, se déplace à Constantine pour affronter dans un match au sommet le Chabab de Constantine au stade Shahid Hamlaoui à 18h dans le cadre de la 27e journée de championnat de Ligue 1. Les Constantinois voudront renouer avec la victoire après 5 matchs sans succès. Les Mouloudéens chercheront à consolider leur avance et se rapprocher un peu plus du 10e sacre de leur histoire. Le reste des rencontres se dérouleront ce vendredi à partir de 16h.
Et on termine avec le handball Reda Ben Agoudji, le deuxième tournoi des play-offs.
Début ce jeudi du deuxième tournoi des play-offs du championnat Excellence Messieurs de handball avec la troisième journée. Les rencontres se dérouleront dans les salles de Borj El Kifen. À 15h, l'Olympique El Oued affrontera à l'AC Ras El Oued et à 17h, la JS Saoura sera opposée à l'OM Annaba. Et à la salle d'El Bihar, à 15h, le CRB Mila affrontera l'ES Ain Touta et à 17h, Borj Bouareridj affrontera le HBC El Bihar. Les 4e et 5e journées auront lieu vendredi et samedi.
Merci beaucoup Reda Ben Agoudji pour toutes ces précisions. À 23h25, c'est la fin de ce journal. A été réalisé par Zindine Khawa, était à la console technique Ahmed Chetroub. Vous retrouvez tout de suite Leïla Dubourg pour les nouvelles du ciel. Et à minuit pour la synthèse, Chumseddine Bouzid. Je vous retrouverai le dimanche prochain. Je vous dis bon week-end.